Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de votre fidélité à Géopolitique. Regard sur Cuba, 2018 a vu arriver un nouvel homme à la tête du pays en la personne de Miguel Díaz-Canel, qui est à la fois chef de l'État, président du Conseil d'État et du Conseil des ministres. Raúl Castro n'a pas pour autant disparu de la scène politique cubaine. Il est secrétaire du Parti communiste cubain, position extrêmement influente à Cuba. Cuba, c'est un peu plus de 11 millions d'habitants, un petit pays donc à quelques milles de la Floride, mais le plus grand de la Caraïbe, avec un ascendant considérable sur les États voisins et sur plusieurs nations d'Amérique latine. 2018 a été marqué par une activité diplomatique assez intense pour Miguel Díaz-Canel, dont le premier déplacement à l'étranger fut au Venezuela, où il se posa en grand défenseur de Nicolas Maduro. Le chef de l'État cubain s'est également rendu à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies cet automne, avant d'entamer une longue tournée eurasiatique d'une dizaine de jours en Russie, Corée du Nord, Chine, Vietnam, Laos. Pour ce qui est des visites à Cuba, on retiendra celle du chef du gouvernement espagnol il y a quelques semaines, c'était fin novembre. Une première en 30 ans, alors que La Havane et Madrid entretiennent des relations plutôt en dents de scie. Cuba, qui pour mémoire fut la dernière colonie à quitter le giron espagnol en 1898. Autre visite, celle du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au mois de juillet. Quelles conclusions tirer de ce balai? Peut-on parler de reconfiguration des liens diplomatiques alors que les alliances latino-américaines de Cuba s'affaiblissent? Le Venezuela et le Nicaragua ne sont pas au mieux de leur forme, que la relation avec les États-Unis est pour le moins compliquée. L'Union européenne, un nouveau relais pour Cuba, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Jeannette Abel, spécialiste de Cuba à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, bonjour.
Bonjour.
Son Excellence Elio Rodriguez Perdomo, ambassadeur de Cuba en France, bonjour.
Bonjour.
Jean-Jacques Ourlianski, chercheur à l'IRIS, directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès, bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Witkowski, président du Conseil stratégique de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, bonjour.
Bonjour.
À l'énoncé des différentes visites mentionnées en introduction, on sent bien un régime cubain en pleine réorganisation diplomatique, plus qu'une nécessité pour Cuba, alors que ses partenaires historiques que sont le Venezuela et le Nicaragua s'affaiblissent, que l'Amérique latine connaît des changements importants. On pense notamment au Brésil avec l'élection et l'entrée en fonction le 1er janvier de Jair Bolsonaro et le rapatriement des médecins cubains, nombreux au Brésil. Il y a aussi le gel du rapprochement diplomatique avec les États-Unis. Jeannette Abel, dans l'émission d'hier, nous avons longuement évoqué la nouvelle constitution cubaine qui sera soumise à référendum en février prochain. La question de l'entreprise privée qui est légalisée finalement par cette constitution dans le cadre d'un processus de réforme antérieur à cette constitution. Ça fait à peu près 10 ans que des réformes ont été décidées à Cuba pour faire avancer les choses. Le processus est lent. Il y a aussi ce qu'on évoquait hier dans l'émission. Voilà, une politique de un pas en avant, deux pas en arrière. Quelques mots sur le contexte économique et cette lenteur.
Oui, je crois que d'abord le pays connaît des graves difficultés et qui sont liées en partie à des raisons externes, hein, notamment à la politique américaine, en particulier depuis l'accession de Monsieur Trump à la présidence américaine, mais pas seulement. L'économie cubaine, elle est au milieu du gué et il faut comprendre que les contradictions des réformes économiques se traduisent notamment sur le plan social et elles expliquent les va-et-vient que l'on peut constater. La propriété privée est désormais accepté, mais la propriété, la suprématie de la propriété de l'État, du secteur public est réaffirmée. Et la difficulté provient de quoi? La difficulté provient du fait que, dans l'immédiat, la propriété privée qui reste minoritaire, mais il y a maintenant un secteur privé et un marché du travail, il y a des salariés de ce qu'on appelle les cuenta propistas, c'est-à-dire en fait à la fois des auto-entrepreneurs mais aussi des PME, des petites et moyennes entreprises importantes, que le statut de ces salariés dans le secteur privé est beaucoup moins protégé que dans le secteur public, mais inversement, ils ont des salaires et des rémunérations beaucoup plus élevées que dans le secteur public. Donc déjà là, on voit bien une grande difficulté, c'est-à-dire qu'il y a des employés, des salariés du secteur public, du secteur d'État, qui veulent passer dans le secteur privé parce que leurs revenus seront supérieurs. En même temps, la priorité reste celle du secteur public. En même temps, les investissements étrangers sont sollicités, et on comprend pourquoi, notamment pour des raisons d'apport technologique. La petite propriété privée était indispensable dans un pays qui était étatisé à hauteur de 80-90%, mais cette économie est au milieu du gué, et un économiste des pays de l'Est célèbre avait eu une formule qui s'applique bien. Il avait dit un jour, une économie ne peut pas être à moitié enceinte. Et donc la difficulté, la contradiction, c'est qu'actuellement l'économie cubaine, elle reste en majorité étatique, mais elle a déjà, sur le plan de l'économie privée, pris beaucoup d'importance, et elle a comme conséquence sociale une montée des inégalités très forte et qui est mal supportée par une population qui est habituée à une grande solidarité et à des grandes conquêtes sociales. Et c'est dans cet environnement-là que l'on comprend que, comme il a été rappelé, quand il y a très peu de temps, on limitait les restaurants, les places de restaurants à 50 places, et puis on est revenu sur ça, parce que ça n'avait effectivement, c'est ce qu'a dit le président cubain, pas beaucoup de sens. On voulait que les petits propriétaires cubains déclarent toutes leurs activités dans les banques. Ça a suscité beaucoup de protestations. On estimait également que certains des investissements auraient dû être réalisés par les Cubains eux-mêmes, mais il y a des limites. On ne veut pas, et on comprend pour ces raisons sociales, on ne veut pas donner un espace trop grand à la propriété privée, aux PME, parce que ça affaiblit tout simplement la base sociale du régime, de la révolution. Et que ces contradictions-là sont dangereuses. Je termine avec un mot. Je pense que l'expérience chinoise et ce qui est en train de se passer avec Xi Jinping actuellement a probablement aussi un impact, parce que c'est en direction du Vietnam et de la Chine que l'inspiration stratégique, économique est venue. Or, actuellement en Chine, il y a un peu petit retour de bâton sur les réformes de Deng Xiaoping, et ce que fait Xi Jinping, c'est réaffirmer à la fois le rôle du parti et revenir sur certaines des dispositions d'ouverture, précisément parce qu'elles fragilisent la société. Donc c'est une modernisation économique extrêmement complexe et dans un environnement international, comme on va probablement le voir, très très difficile. Alors, pour Cuba, qui est un petit pays aux ressources limitées.
Donc grande complexité, monsieur l'ambassadeur, vous partagez ce que vient de dire Jeannette Abel, l'économie cubaine au milieu du gué. Alors on sent bien que le leadership cubain connaît les mesures à prendre sur le plan économique, mais qu'il y a le risque politique et que ça, d'aucuns le craignent. Que sait-on au-delà de tout cela des divisions politiques qui prévalent aujourd'hui au sein de l'apparatchik quant aux réformes?
D'abord, nous, on ne voit pas vraiment de risques politiques. Ce qu'on voit, c'est la nécessité pour les pays d'avoir une économie qui soit efficace, qui fonctionne bien, qui puisse nous permettre de maintenir les acquis sociaux de la révolution. Pour maintenir la gratuité dans l'éducation, pour maintenir la gratuité dans la santé, pour avoir accès à une sécurité sociale très large, pour avoir un pays sûr et stable, il faut aussi avoir une économie solide. Et c'est ça notre défi. Faire le nécessaire pour avoir une économie solide, en faisant les changements nécessaires, avec la possibilité d'avoir un appareil de l'État, des entreprises de l'État public qui fonctionnent bien, qui soient indépendantes dans sa prise de décision, et en même temps pour donner la place nécessaire au secteur privé, dans les domaines qui sont déjà établis. Et en même temps, comme je l'ai dit, comme on a été dit dans la mission hier, les rôles aussi des investissements étrangers à Cuba, qui ne vient pas avec la rapidité que nous on les souhaite, parce qu'il y a aussi l'impact du blocus économique. N'importe quelle compagnie qui travaille à Cuba risque d'être sanctionnée par les Américains. Alors c'est en effet aussi quelque chose qui nous empêche d'avancer avec la rapidité que nous le souhaitons. Mais en tout cas, il y a, comme ça a été mentionné, il y a des défis encore à résoudre. La question de la double monnaie, la nécessité d'aller vers l'unification des taux d'échange de la monnaie. Et il faudra aussi, parce qu'il y en a de la mentionner, aller vers une réforme des salaires et des prix à Cuba. Bon, aujourd'hui, on écoute beaucoup en France parler du fait que le travail doit payer. Chez nous aussi, ce que nous voulons, c'est que le travail paye ce qu'il faut. Et cela va impliquer, à l'avenir proche, des réformes importantes du point de vue des salaires et des prix. Parce que ce que nous souhaitons, c'est maintenir une société, développer une société juste, pas égalitaire, dans le sens dogmatique du terme. Il y a des acquis qui vont se maintenir, sans doute, on va jamais renoncer à ces acquis sociaux, mais pour les maintenir, il faut une économie qui fonctionne bien, avec la participation des entreprises publiques, avec la participation des privés et avec la participation des partenaires étrangers. Nous, on ne suit pas un modèle chinois ou d'autres. On a étudié beaucoup d'expériences et nous, nous essayons de construire notre propre modèle à partir de notre histoire, à partir de notre particularité et à partir de nos expériences. En apprenant des bonnes choses qui ont bien fonctionné dans beaucoup de pays, y compris en Europe occidentale, et en sachant ce qu'il ne faut pas faire pour éviter des différences sociales qu'on ne peut pas se permettre à Cuba.
Jean-Jacques Roulianski, un commentaire.
Non, sur ce sujet-là, je me suis déjà exprimé dans une émission précédente. Oui, la tension est permanente entre la volonté du gouvernement cubain, des autorités de maintenir une, sinon une égalité, du moins une société socialiste juste, et celle de l'efficacité économique. Donc j'avais employé le terme de tango qui reflète cette tension permanente. Donc il y a de temps en temps des mesures qui favorise l'épanouissement d'une société économique privée et puis des coups de frein lorsqu'on considère que le développement de ce type d'économie, je ne parle pas là des investissements étrangers, hein, je parle du secteur privé cubain, donc on considère que le développement de ce secteur privé autochtone génère de trop fortes inégalités, et donc il y a des coups de frein. Donc on a vu des problèmes qu'a cité Jeannette Abel tout à l'heure, il y a eu également celui des chauffeurs de taxi privés récemment qui a été posé, celui des aides aux entrepreneurs privés qui auraient été suspendues, qui étaient considérées comme n'étant pas de nature pérenne. Donc, mais ce sont des va-et-vient, alors on peut les qualifier de pragmatiques, effectivement, qui ne suivent pas un modèle préétabli, mais qui reflètent cette tension permanente entre la recherche de l'efficacité économique, tout en essayant de préserver l'essentiel des acquis du régime cubain, donc qui sont de nature sociale ou socialiste.
Alors, Stéphane Vitkovski.
Je pense que le défi le plus important sur le plan économique, enfin, entre autres, c'est le défi de l'unification monétaire que l'ambassadeur évoquait, qui est absolument essentiel, y compris pour le rôle des épargnants et le rôle de ce qu'on appelle les remessas, c'est-à-dire au fond les devises apportées par la diaspora.
Alors juste pour nos auditeurs comprendre l'importance, Stéphane Vitkovski et Monsieur l'ambassadeur, de mettre fin à cette double monnaie aujourd'hui à Cuba.
Oui, aujourd'hui, on a deux monnaies à Cuba, les pesos cubains et les pesos convertibles. Et ça a été créé au début des années 90 quand on a perdu 85% de nos échanges commerciaux avec les pays de l'Europe de l'Est. Et c'était un changement important. À ce moment-là, d'abord, on a légalisé la circulation du dollar américain et après, on a changé, on a créé ces deux monnaies. Ce qui complique beaucoup le fonctionnement de l'économie, même de l'entreprise publique, de l'entreprise de l'État. Alors, il faut résoudre ça. On a voulu les faire plus tôt, mais c'est pas facile parce que il faut c'est les faire en évitant un impact social pour la population. Alors là, c'est l'essentiel. Créer les conditions pour donner les pas, d'unifier la monnaie, une seule monnaie, un seul taux d'échange, mais en évitant une dégradation du pouvoir d'achat de la population. Parce que ça, c'est ça les plus importants. Nous voulons aller vers un État plus moderne, plus participatif, dans lequel les Cubains puissent vivre mieux. C'est pas seulement déjà l'effet d'avoir les acquis sociaux déjà garantis depuis beaucoup de temps, mais d'aller plus loin, que les Cubains puissent vivre mieux. C'est ça notre volonté, c'est ça notre intérêt.
Stéphane Vitkovski.
Et auquel ajoute, à mon avis, une exigence, la politique d'attraction des investissements étrangers qui est quand même très en deçà des objectifs annoncés par le gouvernement cubain depuis longtemps. Et là, je crois que l'objectif de 2030 de parvenir à une économie développée, et on est encore un peu très en deçà, avec trois chantiers qui ont été entrepris par le gouvernement, qui sont des chantiers d'avenir, et qui sont essentiels à mon avis. C'est d'une part le chantier démographique, essentiel. Le chantier du défi touristique, parce qu'en réalité, il y a beaucoup, beaucoup d'inconvénients par rapport à l'équilibre social et sociétal du pays. Je crois que Jeannette Abel évoquait les conséquences des cuentapropistes, mais il y a aussi les conséquences du tourisme à moyen long terme aussi pour le pays. Peut-être qu'on sous-estime. Et il y a deux chantiers sur lesquels le gouvernement est très engagé. La transition énergétique, objectif de 24% d'énergie nouvelle à objectif 2030. Et enfin et surtout, Un défi très important que le gouvernement a engagé, c'est le défi numérique, avec effectivement maintenant 5 millions de Cubains qui disposent, donc la moitié de la population qui dispose de portables, avec effectivement un objectif d'avoir un gouvernement électronique, et avec, en associant les provinces et les municipalités à ce commerce électronique et de faire en sorte que Cuba soit effectivement un pays informatisé totalement et qui développe aussi l'industrie du logiciel. Ce sont des domaines extrêmement importants parce qu'on sait que le président Díaz-Canel est très féru de nouvelles technologies d'Internet et ces technologies-là, il veut les mettre en place concrètement.
Mais l'accès à Internet qui reste tout de même prohibitif. On va parler de Cuba dans son environnement régional. Je reviens sur la question du départ des médecins cubains du Brésil. C'est un fort manque à gagner pour une activité qui rapporte 11 milliards de dollars, je parle sous votre contrôle à chacun, 11 milliards de dollars à Cuba, davantage que le tourisme et à un moment où le pays a bien besoin de rentrées monétaires. Alors pour ce qui concerne le Brésil, ce sont 8332 médecins sur le départ ou qui sont déjà partis. Et au total, monsieur l'ambassadeur, ce sont 55 000 médecins qui sont aujourd'hui médecins cubains qui sont aujourd'hui stationnés dans 67 pays, principalement donc au Venezuela et au Brésil, mais plus pour très longtemps en ce qui concerne le Brésil. Alors, je voudrais comprendre plusieurs choses par rapport à la politique étrangère et à la diplomatie de Cuba, d'abord dans son environnement régional. On voit Cuba, Miguel Díaz-Canel, je le disais en introduction, son premier voyage a été pour le Venezuela voisin. Comment expliquer ce soutien absolu de Cuba vis-à-vis du Venezuela et du Nicaragua, qui ne sont pas deux pays qui se portent le mieux aujourd'hui en Amérique latine?
Bon, je dois dire que d'abord, il y a une continuité aussi dans la politique étrangère de Cuba, avec les nouveaux présidents, avec les nouvelles autorités. La politique étrangère de Cuba vraiment a été très claire dès le début de la révolution. Nous maintenons les mêmes lignes de politique étrangère. D'abord, la priorité, c'est de maintenir l'indépendance de notre pays, de faire comprendre notre message, notre réalité, et d'avancer dans les relations avec le reste du monde, sur la base du respect, de la réciprocité, de l'égalité entre les parties. Et c'est sur la base de ces principes-là, qui vont aussi être ratifiés dans la nouvelle constitution qui va être amenée au référendum, nous continuons à travailler pour le développement de nos relations internationales. Vous avez mentionné quelques exemples. L'année 2018 a démontré cette avancée aussi au niveau de la politique étrangère, les voyages du nouveau chef d'État. Mais en général, il faut dire que Cuba renforce ses relations avec le monde. On a superé depuis longtemps déjà l'état d'isolement dès le début de la révolution. On a des partenaires partout dans le monde. On a des relations diplomatiques avec tous les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes. On a des ambassades, plus de 120 ambassades dans le monde. On a 122 ambassades étrangères à Cuba. On a des excellentes relations avec des pays de l'Afrique, des pays de l'Asie, du Moyen-Orient. On est présent partout. On développe de plus en plus nos relations avec des pays comme le Canada, par exemple, qui est un partenaire important. L'Union européenne, on est actuellement dans un processus vraiment positif des relations entre Cuba et l'Union européenne, après l'entrée en vigueur provisoire de l'accord de dialogue politique et de coopération. Nous voulons que l'Europe continue à être un partenaire important de Cuba. Un quart de nos échanges commerciaux se font avec l'Europe. On reçoit chaque année 1 million de touristes européens chez nous. Il y a une coopération importante. Et dans l'Europe, évidemment, la France reste un partenaire important. Vous avez mentionné la visite du ministre Lédrien, du ministre des Affaires étrangères à La Havane au mois de juillet, la visite officielle. On a eu vendredi la troisième réunion de la commission bilatérale avec la présence à La Havane du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoine, chargé du commerce extérieur et du tourisme, et dans lesquelles, dans ces réunions, on s'est engagé à continuer à faire avancer les relations entre Cuba et la France dans tous les domaines, y compris particulièrement la coopération, les échanges économiques et commerciaux. La France reste un partenaire important pour Cuba. La visite du ministre canadien l'a ratifié. Et l'entretien que le président Díaz-Canel a eu avec le premier ministre Édouard Philippe le 31 octobre lors d'un passage en transit à Paris a confirmé la volonté des deux pays de continuer à renforcer les liens bilatéraux.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Son Excellence Elio Rodriguez, père de mots, ambassadeur de Cuba en France, Jeannette Abel, Jean-Jacques Ourlianski et Stéphane Witkowski. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la place de Cuba dans son environnement régional et au-delà. Nous retrouvons Jeannette Abel, Son Excellence Elio Rodriguez Perdomo, ambassadeur de Cuba en France, Stéphane Witkowski et Jean-Jacques Kourlianski. Jean-Jacques Kourlianski, que dire du soutien de Cuba aujourd'hui au Venezuela et au Nicaragua ?
Le contexte régional a beaucoup changé. Dans le contexte régional, il y a 4-5 ans, était plutôt très favorable à Cuba. Il y avait un certain nombre de gouvernements, pour faire simple, qu'on pourrait qualifier de progressistes, mais qui étaient nationalistes et multilatéralistes en matière de politique étrangère. Aujourd'hui, on se trouve dans un contexte tout à fait différent et Cuba garde peu d'alliés potentiels en Amérique latine. Et je dirais que c'est un principe de realpolitik. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Regardez ce qu'a fait la Troisième République française à la fin du XIXe siècle. Elle s'est tournée vers l'empereur de toutes les Russies, qui n'était pas un démocrate. Mais bon, il y avait une urgence qui était l'Allemagne à l'époque. Donc il y a des urgences diplomatiques qu'il faut traiter comme telles et qui sont indépendantes des sympathies idéologiques, culturelles en matière de droits de l'homme. Donc, pour prendre un exemple, c'est vrai, comme le disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, Cuba a des relations avec tous les pays du monde, et donc avec tous les pays d'Amérique latine. Bon, le 1er janvier, le nouveau président du Brésil va prendre ses fonctions, et après avoir envoyé une lettre d'invitation Itamaraty, donc le ministère des Affaires étrangères, comme il le fait traditionnellement, a envoyé des lettres d'invitation à l'ensemble des pays du monde, et qui ont été, sur décision du futur président, invitations qui ont été retirées pour deux pays d'Amérique latine, Cuba et le Venezuela. Alors, on a failli se trouver dans le même cas de figure le 1er décembre au Mexique. L'opposition au président Andrés Manuel López Obrador a manifesté non pas contre Cuba, mais contre le Venezuela, en exigeant une idéologisation des relations diplomatiques du Mexique. Et le futur président mexicain a refusé, en s'appuyant sur une doctrine diplomatique mexicaine appelée la doctrine Estrada, qui reconnaît que le Mexique doit avoir des relations de gouvernement d'État à État, indépendamment de la couleur politique des gouvernements. Donc ce principe n'a pas été remis en cause, mais a été quand même, a fait l'objet de sérieuses polémiques au Mexique. Il l'est en ce qui concerne le cas du Brésil. Et ce qu'il faut noter, c'est que le Brésil fait partie d'un nouveau groupe de pays d'Amérique du Sud auquel participe d'ailleurs le Canada, le groupe de Lima, qui est un groupe de pays pratiquant une diplomatie ultra-conservatrice qui vise essentiellement le Venezuela, non pas Cuba directement, mais qui est la traduction de l'évolution des choses en Amérique latine. Il faut noter par ailleurs que il y a quelques jours au Brésil s'est réunie pour la première fois une conférence des partis politiques très conservateur, très à droite, coordonné par le fils du futur président brésilien, Eduardo Bolsonaro, et auquel ont participé l'ex-président colombien Alvaro Uribe, donc qui est représentatif de la majorité actuellement au pouvoir en Colombie, Monsieur Katz, qui est le candidat de la droite radicale, qui est arrivé troisième aux dernières élections présidentielles au Chili, et qui est crédité de 20% des intentions de vote, et donc beaucoup d'amis de monsieur Bolsonaro. Donc on a vraiment un contexte régional extrêmement compliqué qui contraint la diplomatie cubaine à chercher de l'air hors d'Amérique latine en ce moment. Donc la tournée du président cubain dans les pays asiatiques s'explique par ce contexte. Les rapports avec la France avaient été déjà renforcés avec la visite de l'ex-président François Hollande, et donc l'Espagne, qui est quand même un des premiers investisseurs, et notamment le premier en matière touristique à Cuba. Donc avec le changement de gouvernement à Madrid, on a noté une évolution de la diplomatie espagnole à l'égard de Cuba, qui devrait aller d'ailleurs un petit peu plus loin avec la visite du roi d'Espagne, qui devrait venir à La Havane, qui célèbre le 500e anniversaire de sa fondation. Donc on a ce contexte-là. Alors dans ce contexte, on comprend que Cuba cherche à maintenir ce qui peut l'être encore dans ses relations avec un certain nombre de pays d'Amérique latine, en particulier le Venezuela, le Nicaragua ou l'Uruguay, la Bolivie, etc.
Vous souhaitez rajouter quelque chose, monsieur l'ambassadeur, sur le soutien de Cuba au Venezuela et au Nicaragua? Après ça, on parlera des États-Unis. Donc très...
Oui, seulement dire, on vit dans un monde très complexe. Quelle région du monde n'a pas des difficultés actuellement? On est en Europe, hein. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Sans doute, on a aussi des difficultés en Amérique latine. Vous avez mentionné quelques éléments. Bon, on m'a jugé, il y a une réunion à La Havane très importante du Foro de Sao Paulo. C'est une organisation dans laquelle participent toutes les forces de gauche progressistes de l'Amérique latine. Et on discute sur la situation du continent et on voit comment on peut faire face ensemble à ces défis de la montée des forces d'ultra-droite, même dans la région. Il y a eu, il y a quelques jours, le sommet de l'ALBA. L'organisation de l'alternative bolivarienne des Amériques, l'Alliance bolivarienne, dans laquelle il y a des pays de gauche, des gouvernements de gauche progressistes en Amérique latine qui participent, une dizaine de pays. On s'est engagé à continuer à renforcer l'unité de ces pays-là face à des gouvernements qui ont des positions contraires au développement progressiste dans la région. Mais en tout cas, ce que nous voulons, c'est travailler pour l'unité dans la diversité en Amérique latine. Et pour le faire, il faut respecter les droits de chaque pays à construire son propre destin. J'ai lu avec beaucoup d'attention les déclarations du ministre français des Affaires étrangères quand il mentionnait des tweets d'un autre chef d'État sur la situation politique interne en France. Il demandait du respect parce qu'il faut que les Français soient capables de résoudre les problèmes. Je crois que c'est partout la même formule dans le monde. Il faut laisser les Vénézuéliens résoudre les problèmes. Il faut respecter les droits des Nicaraguayens de résoudre leurs propres problèmes, comme nous les faisons nous-mêmes, les Cubains. C'est partout le même principe. Il faut respecter les droits de chacun au dialogue. Et évidemment, nous défendons partout la voie du dialogue pour la solution des différences. Mais pour vous dire que si on a aujourd'hui une situation différente avec d'autres pays, si monsieur ou une autorité décide d'échanger les accords qui ont été signés avant avec d'autres gouvernements pour fournir des médecins cubains, c'est pas nous qui l'avons demandé. Les médecins cubains sont allés là où on a demandé la présence des médecins cubains. Vous avez mentionné la quantité, 55 000 médecins qui travaillent dans
67 pays.
Voilà, 73 pays du monde. Nous allons où on nous demande pour aider les autres pays à résoudre leurs propres difficultés. C'est ça ce que nous pouvons faire parce que nous avons les ressources humaines pour le faire. C'est une coopération modeste, c'est ça ce que nous pouvons faire. Mais si l'autorité d'un pays décide de changer ce qui a été accordé, il a les droits de le faire. Nous, on retire notre personnel. Ils peuvent revenir à Cuba parce qu'il nous faut aussi nos médecins chez nous et sinon aller travailler ailleurs où d'autres pays pourraient éventuellement demander les services de nos médecins.
Alors juste pour situer pour nos auditeurs, le président brésilien reprochait au système cubain d'exiger qu'une partie du salaire des médecins revienne à Cuba et qu'il ne touche qu'une certaine partie, d'où la décision pour les médecins cubains.
Le commentaire était même plus fort, oui, il accusait d'être les esclaves du communisme.
Stéphane Witkowski, très rapidement, après ça on va passer aux États-Unis.
C'est une conséquence d'une politique extérieure des Américains et du président Trump, absolument dramatique, non seulement pour des pays comme l'Europe et surtout l'Amérique latine, parce qu'en réalité, ce qui se passe actuellement, c'est l'éclatement de tous les ensembles régionaux, bien sûr l'ALBA, mais aussi l'UNASUR, mais aussi le MERCOSUR, et tous ces pays sont totalement, en réalité, victimes, en quelque sorte, d'une politique orientée. Je crois que ce qui se passe au Brésil en ce moment, et en particulier à la tête de l'Itamaraty, le ministère des Affaires étrangères, est absolument dramatique, non seulement pour le pays, mais pour ce ministère qui dispose d'une diplomatie exceptionnelle dans le monde et qui est à la tête de ce ministère, un ambassadeur à Araújo, qui est totalement contraire à cette tradition très ancienne de la diplomatie brésilienne. Ça pose un véritable problème d'une stratégie régionale qui a été totalement infiltré et avec, je dirais, des chevaux de Troie, si on peut dire, en Amérique latine, au Brésil et dans d'autres pays de la région.
Alors, les États-Unis, on y reste. On se souvient tous de la visite du président Obama en mars 2016. On en est loin aujourd'hui. Donald Trump a opté pour une ligne dure avec Cuba, avec la tentative de Barack Obama de lever des décennies d'hostilité entre Washington et La Havane. Donald Trump a restreint les conditions de voyage des Américains, restreint les possibilités offertes, on l'a déjà dit, aux compagnies américaines de faire du business. J'ai cette question. Est-ce que Donald Trump, Janet Abel, est en train de rater une occasion avec Cuba d'aider le pays en cette période de transition avec cette nouvelle constitution ?
Oui, certainement. Et bon, vu le chaos qui règne à la Maison Blanche, dont on a encore vu quelques effets tout récemment, changement de personnel qui n'arrête pas, le département d'État qui est très déstabilisé. Néanmoins, le problème des relations à l'égard de Cuba, c'est non seulement le renforcement des sanctions, évidemment, mais c'est le fait que Donald Trump s'appuie sur des personnalités qui sont les plus extrémistes du Parti républicain. Alors, pas toutes. Alors, je veux juste souligner que si, d'un côté, l'un de ses conseillers, Mauricio Claver Corone, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'hémisphère occidental au sein du Conseil de sécurité, un Cubain d'origine et qui est extrêmement conservateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, Trump sort quand même à des différences au sein même du Parti républicain. Et tout récemment, c'est le sénateur républicain Bob Corker, qui est président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, que le président Díaz-Canel avait rencontré déjà aux États-Unis, qu'il a rencontré de nouveau à Cuba, et avec lequel les contacts sont assez importants. Et on voit bien, d'ailleurs, Bob Corker avait déjà été opposé aux préconisations de Trump à l'égard du Venezuela. Il avait contribué à la libération d'un Américain qui avait été emprisonné. Donc, de nouveau là, il va à l'encontre de la politique de Trump. Et on voit bien quand même qu'il y a au sein même du Parti républicain, notamment l'ancien sénateur Jeff Flake de l'Arizona, qui est quelqu'un qui a été un interlocuteur privilégié de la Havane, on voit bien qu'il y a des ruptures au sein du Parti républicain. Et si l'on tient compte du fait que la Chambre des représentants a basculé maintenant du côté démocrate, même s'il y a chez les démocrates aussi des secteurs qui sont des partisans très importants, l'embargo, on peut se demander néanmoins s'il n'y a pas un espoir de changement du point de vue diplomatique, pas tout de suite, mais après les élections de mi-mandat et dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, peut-être peut-on espérer une modification de la politique américaine. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je comprends une chose dans la diplomatie cubaine, vu le contexte régional extrêmement négatif. La diplomatie cubaine a comme principe fondamental une politique de non-ingérence, quel que soit le régime politique. Je nuancerais juste ce jugement par une chose, c'est que ça ne devrait pas signifier, c'est mon avis, une approbation d'un certain nombre de pratiques politiques. Et lors de la réunion du Forum de São Paulo, dont l'ambassadeur a parlé, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas l'ombre même d'une réserve, ne serait-ce que d'une réserve à l'égard de ce qui se passe, je dirais principalement au Nicaragua, que je ne mettrais pas d'ailleurs sur le même plan quand même que le Venezuela. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça facilite quand même pas l'analyse de ce qui se passe dans ces pays. Non-ingérence, je comprends bien, mais pas d'approbation, et en tous les cas, pas de, comment dire, il devrait y avoir des réserves quand même sur les pratiques telles qu'elles existent, notamment s'agissant, je dirais, d'abord de ce qui se passe au Nicaragua, de la part d'une équipe qui a été une équipe, l'équipe sandiniste, participant décisif de la révolution sandiniste, rejetée aujourd'hui par la population.
La dérive autoritaire de Daniel Ortega au Nicaragua. Monsieur l'ambassadeur, vous souhaitez répondre sur le Nicaragua et aussi sur les États-Unis, les espérances avec la nouvelle chambre qui s'installera le 20 janvier prochain à Washington.
Oui, d'abord, bon, sur la question d'un pays de l'autre, moi, je ne vais pas vraiment me prononcer sur les questions des affaires étrangères d'autres pays. On est très respectueux de cela, comme on demande aussi le respect sur la nôtre. Nous, sans doute, on a des excellentes relations avec les gouvernements démocratiquement élus au Venezuela et au Nicaragua. On a un dialogue très large avec eux. On discute sur tous les points. Et après, les réalités de chaque pays, on respecte leurs droits d'avancer sur ces questions, comment ils décident de les faire. C'est pas à nous de donner des leçons à d'autres sur comment ils doivent faire les choses. Et après, s'il y a une réunion à La Havane des forces politiques, ils font des positionnements sur les choses, bon, c'est leur droit de le faire, hein. C'est comme ça, les débats politiques aussi dans le monde. Mais revenant aux États-Unis, je crois, sans doute, il y a eu des progrès, des pas positifs qui ont été donnés, surtout les deux dernières années du mandat du président Obama. On a rétabli les relations diplomatiques, on a rouvert les ambassades, on a signé 23 accords de coopération dans différents domaines. Ce qu'on a constaté sous les faits, parce qu'on ne peut pas deviner ce qui va se passer après, mais jusqu'aujourd'hui avec l'administration Trump, on voit clairement des pas en arrière. Pas seulement avec Cuba, hein, sur beaucoup de dossiers avancés par l'administration Obama, on voit une direction tout à fait contraire de la part de l'administration Trump. La question du changement climatique, l'accord iranien, sur les nucléaires, Cuba, etc. Aujourd'hui, on voit vraiment des mesures concrètes pour renforcer l'application du blocus économique, commercial et financier, pour empêcher le développement des relations, des échanges économiques et commerciaux entre Cuba et les États-Unis, pour diminuer le nombre de voyageurs américains qui viennent à Cuba. Vous savez, Cuba, c'est le seul pays du monde qu'un citoyen américain ne peut pas visiter librement. Il peut aller n'importe où, mais pas à Cuba. C'est pas logique, c'est irrationnel. Alors, nous, notre stratégie, c'est de continuer à diversifier nos relations avec le monde, avec tous ceux qui souhaitent travailler avec nous, en respectant notre choix de développement politique, économique et social. On est ouvert à travailler avec tous, sur la base du respect. Et on verra, on espère qu'un jour, on pourrait avoir une relation normale avec les États-Unis. Ça ne va pas être, évidemment, cette année, hein, ni l'année prochaine sans doute, mais on a réitéré notre volonté d'avancer vers un processus de normalisation avec les États-Unis. Parce que c'est un pays voisin, c'est un grand pays. Nous n'avons rien contre la société américaine, tout au contraire. Et nous pensons qu'un jour, nous espérons qu'un jour, les autorités à Washington soient capables de reconnaître les droits de Cuba d'être un pays souverain indépendant, de choisir son propre chemin, et sur ces bases-là, d'établir une relation raisonnable, une relation civilisée. Pendant ce temps-là, nous, on continue à attendre en défendant notre identité, notre souveraineté, et en travaillant avec les restes du monde.
Jean-Jacques Orlianski, Stéphane Witkowski, en guise de conclusion.
Bon, très brièvement, effectivement, après l'ouverture de la fin du deuxième mandat du président Obama, on est aujourd'hui dans une phase de retour en arrière, de remise en question, avec une succession de mesures qui ont été prises contre les déplacements qui avaient été ouverts et libéralisés de citoyens nord-américains. Je ne parle pas des Cubains, des citoyens américains d'origine cubaine, mais des citoyens américains d'origine à Cuba, des nouvelles sanctions économiques, notamment à l'égard des entreprises liées aux forces armées cubaines, et dernièrement le déplacement du service consulaire de l'ambassade des États-Unis à Mexico avec une antenne dans le Guyana, ce qui évidemment ne facilitera pas le déplacement des Cubains vers les États-Unis et des Nord-Américains vers Cuba. D'autre part, donc, les sanctions effectivement continuent à s'appliquer. Donc il y avait eu la BNP il y a quelques années qui avait été sanctionnée. Aujourd'hui, c'est la Société Générale. Donc, on est vis-à-vis des États-Unis dans une phase de refroidissement, de durcissement, qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le président cubain cherche une ouverture vers des pays plus lointains, vers l'Europe, bien sûr, mais aussi vers l'Asie.
Stéphane Witkowski.
C'est une politique de Donald Trump qui avait été définie à Miami en juin de l'année dernière, et l'un des effets de sa décision, totalement contradictoire, d'une part de sanctionner des entreprises d'État dirigées par des ex-militaires, d'une part, et d'autre part d'assécher les flux de touristes américains dans l'île. La conséquence directe, ça a été de diminuer l'influence des auto-entrepreneurs dans l'île et de renforcer ces Américains qui vont dans l'île, dans les restaurants d'État, dans des hôtels d'État, qui sont contrôlés eux-mêmes par des entreprises d'État. Donc c'est une illustration d'une contradiction totale, d'une absurdité absolue, et en même temps qui rompt avec cette politique de « soft power » entre guillemets qui avait été initiée par Barack Obama.
Merci, je crois que ces deux émissions du week-end nous ont permis vraiment de dresser un panorama sur Cuba aujourd'hui, avec des éléments, des clés de compréhension que vous nous avez données et qui, je trouve, en cette fin d'année, on l'a dit, avec la nouvelle constitution cubaine et en 2019, le 500e anniversaire de la Havane, voilà, de faire un point sur ce pays. Merci à nos invités, Jeannette Abel, spécialiste de Cuba à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, son Excellence Elio Rodriguez, père d'Homo, ambassadeur de Cuba en France, Jean-Jacques Orlianski, chercheur à l'IRIS, directeur de l'Observatoire Amérique Latine à la Fondation Jean Jaurès, et Stéphane Witkowski, président du Conseil Stratégique de l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Pauline Leduc. À samedi prochain.